Le débat africain. Alain Foucault.
Des cadavres de bébés retrouvés dans des sacs plastiques ou de terrains vagues. Des jeunes filles sanguinolentes retrouvées mortes dans leur chambre. Des chiens errants dévorant des fœtus dans des décharges. On a presque fini par s'habituer à ce type de faits divers macabres en Afrique, tellement ils sont fréquents. Au-delà de ces infanticides qui alimentent quasi quotidiennement les colonnes des journaux, l'acte en lui-même, qui est la première cause de mortalité maternelle, reste dans le même temps un sujet tabou. Pourtant, malgré les textes de loi qui un peu partout le condamnent à de lourdes peines, il est tellement pratiqué qu'il fait chaque année 29 000 victimes. 29 000 jeunes filles en meurent tous les ans. Et plus encore en sortent mutilées à vie. Et si on parlait sans tabou, sans hypocrisie de l'avortement, faut-il le dépénaliser? Comment mettre un terme au drame qu'ils entraînent dans nos familles? Notamment dans les zones rurales et dans les milieux déshérités où il est pratiqué clandestinement, dans des conditions insalubres et inhumaines. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à ce sujet qui est à la fois de santé publique et de droit moral. Avec plusieurs invités tous au téléphone dans quelques villes subsahariennes. D'abord, l'imam Mahmoud Diko, ancien président du Haut Conseil islamique malien. Il est en direct de Bamako. Bonjour imam.
Bonjour Alain Foucault.
Second invité de ce magazine, Dr Joséphine Fokam, gynécologue obstétricienne à Bafoussam dans l'ouest du Cameroun. Elle est la patronne d'une importante clinique sur place, la plus importante d'ailleurs. Bonjour Dr Fokam.
Bonjour Alain. Bonjour à toute l'équipe de RFI.
Notre troisième invité est Madame Bolatiana Raveloa Rimissa, la cofondatrice du mouvement Nifin Akanga, un mouvement féministe pro-choix à Madagascar. Le mouvement est né à la suite de la suppression par le Parlement de l'article légiférant l'interruption de grossesse pour des raisons médicales. Raveloa Rimissa est aujourd'hui en direct de Harare, la capitale zimbabwéenne. Bonjour Raveloa Rimissa.
Bonjour à tous, bonjour Anna.
Notre dernier invité, et pas des moindres, est Maître Ousmane Thiam, le président de l'Association des jeunes avocats sénégalais. Il défend notamment des femmes accusées d'avortement et d'infanticide. Pas aisé dans un pays où la loi est particulièrement dure sur la question. Il est en direct de Dakar, la capitale sénégalaise. Bonjour Maître Ousmane Thiam.
Bonjour Alain, bonjour aux auditeurs de RFI.
Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois dire que le débat sur l'avortement est quasi planétaire. Il agite de nombreux pays, tant d'Europe, d'Asie que d'Amérique. L'Alabama, un des États des États-Unis d'Amérique, vient d'ailleurs de voter pour une interdiction quasi totale de l'avortement, même en cas de viol ou d'inceste. Mais ce qui est singulier, c'est le nombre de victimes qu'il fait quotidiennement en Afrique. Dans l'immense majorité des pays du continent noir, l'IVG est soumise à des conditions tellement strictes que l'avortement clandestin est la règle. 97% des IVG se font hors circuit médical. J'ai été frappé par ces propos d'un médecin du Sénégal qui disait « J'ai refusé de faire un avortement lorsque j'ai démarré mon cabinet pour rester dans la légalité. Quand j'ai appris que la patiente était morte, je ne me le suis pas pardonné. J'ai alors décidé de pratiquer les IVG. » Même son de cloche chez un autre médecin qui dit « Mon objectif de départ en tant que gynécologue était surtout d'accompagner les femmes dans leur grossesse. Bref, d'être du côté de la vie. » Mais mon devoir consiste aussi à sauver des vies, en évitant de recours aux avorteuses d'arrière-cour qui s'y prennent avec des aiguilles à tricoter non stérilisées. Alors, docteur Fokam, êtes-vous aussi confronté à ce dilemme dans votre clinique au Cameroun où vous exercez? Est-ce que vous êtes obligé de faire ce choix-là?
Nous sommes tous confrontés à ce genre de situation parce que la demande est quasi quotidienne des jeunes filles et même des femmes mariées qui veulent pratiquer le planning familial et qui n'ont pas eu à prendre des contraceptifs et qui se retrouvent devant une situation qui les oblige à avorter. Mm-hmm. C'est vraiment une situation de consultation quotidienne. Alors, et dans ce cas-là, évidemment, on est partagé entre le respect de la loi et la satisfaction du malade qui est aussi un des devoirs du médecin.
Alors quel est le profil de ce type de femme qui vient vous voir quotidiennement comme vous le dites? Ce sont des jeunes femmes, c'est des femmes d'un certain âge?
Et c'est toutes les femmes parce que même des femmes mariées ont des grossesses non désirées. Mmh. Il y a des femmes, des filles en âge scolaire qui tombent enceintes et qui voient leur avenir scolaire mis à mal. Et puis, il y a des travailleuses, des femmes qui viennent de trouver peut-être du travail et qui ne peuvent pas être acceptées si elles sont enceintes. Il y en a qui doivent entrer dans la police ou l'armée. Donc, il y a tellement de causes et de motifs de demande d'avortement que C'est difficile de cataloguer...
De dresser un profil. Est-ce la même chose à Madagascar? Est-ce que sur place, là-bas à Madagascar, Pravelo Arimisa, vous rencontrez les mêmes difficultés?
Oui, les mêmes difficultés à Madagascar. Et j'aimerais surtout apporter une remarque concernant l'âge. Parce que quand on dit avortement, on stigmatise les jeunes filles. Mmh. Mais une récente étude à Madagascar a vraiment mis les points sur les i en disant que les femmes qui avortent le plus sont entre 40 et 49 ans. Puis la tranche d'âge 25 à 39 ans. Mais le 15 à 19 ans n'est que de 14,4%. Au fait, il y a une certaine idée fausse sur l'avortement qu'on porte en Afrique pour stigmatiser les jeunes filles. Mmh. Alors qu'au fait, ce sont plus les femmes actives et qui ont peut-être eu des plannings familiales qui n'ont pas marché ou que la grossesse n'est pas désirée ou dans des cas où la grossesse peut aussi engendrer la mort de la femme. Donc c'est entre plus 25 à 49 ans où les interventions sur les grossesses sont plus pratiquées à Madagascar.
Mmh. Docteur Fokam, c'est les mêmes proportions chez vous? Ce sont des femmes entre 40 et 50 ans?
Je crois que elle rejoint ce que je venais de dire tout à l'heure, que tous les âges sont concernés, surtout les femmes qui sont en âge de travailler ou les femmes mariées qui ont déjà un certain nombre d'enfants et qui veulent limiter la grossesse sans avoir pratiqué la contraception. Mmh. Ce qui se passe à Madagascar rejoint fortement les situations que nous vivons au Cameroun.
Ces femmes qui viennent chez vous, est-ce qu'elles représentent la majorité ou bien est-ce que dans les villes, une ville comme Bafoussam, on compte encore de nombreuses filles qui vont chez ces femmes-là qui vont chez des avorteurs clandestins?
Malheureusement, la minorité vient chez nous et c'est la majorité qui va dans les voies des charlatans ou des avorteurs clandestins. D'abord parce qu'il n'y a pas des moyens de se faire avorter dans une clinique où les médecins spécialisés exercent.
Pour des questions de prix ou bien à cause de la loi?
Moi, je crois que c'est beaucoup plus pour des questions de prix parce qu'en ce moment, au Cameroun, dans toutes les structures, malgré que la loi interdise les avortements, tout le monde la pratique parce que, comme je vous ai dit, la demande est forte. Mmh. Et au moins dans les cliniques ou bien là où on rencontre les médecins dans les hôpitaux, au moins la technique et la survie de la femme est assurée.
Alors, à Madagascar, est-ce que, très concrètement, j'ai envie de poser la même question, comment c'est pratiqué? Est-ce les tradis praticiens surtout ou bien les gens vont voir librement le médecin de plus en plus?
Donc, il y a la loi qui actuellement interdit tout, même en cas
de viol.
Et même de grossesse à risque pour la vie de la femme, donc tout est interdit. Mais comme a dit notre ami de Cameroun, quoi qu'il se passe, ça se pratique. Bizarrement, et vraiment d'une manière contradictoire, on a vu que ce sont les médecins qui pratiquent le plus les avortements. Hors du contexte médical, bien sûr, donc ils ont des cabinets qui sont en arrière-cour et qui pratiquent les avortements. Il y a aussi les tradis praticiens, mais ce qui est le plus problématique, ce sont les auto-pratiques.
Auto-avortements, oui.
Mmh. Auto-avortements, soit par des décoctions, soit par des médicaments, soit aussi par des actes avec des outils. Donc c'est ça ce qui se passe. Et il y a aussi donc ces marabouts qui font des avortements sans savoir qu'est-ce qu'ils font vraiment.
Alors, on sait que dans la plupart des pays, les filles ont fini par croire qu'elles avaient les produits miracles. Docteur Fokam, au Cameroun, on sait qu'il y a des filles qui utilisent des produits simples et des produits les plus dangereux pour cela. Quels sont ces produits-là qu'on utilise, qu'on retrouve le plus souvent lorsque vous avez des filles qui arrivent en détresse chez vous à l'hôpital?
Ben, le produit le plus utilisé au Cameroun, c'est un mélange d'antipaludéens à forte dose, à dose létale même.
Mon Dieu.
Mélangé avec du whisky.
Avec du whisky?
Avec du whisky. Beaucoup de mes malades qui sont venus avec de l'automédication ont cité ce mélange-là. En dehors de ça, il y a des produits qui leur sont donnés par des marabouts qui sont un mélange de feuilles ou d'écorce. Donc la composition nous est inconnue à ce jour, mais qui crée plus de problèmes hémorragiques que d'avortements. À côté de cela, il y a des produits comme le Cytotec qui était destiné aux problèmes gastriques, mais qui avait des effets secondaires liés à l'ouverture et la dilatation du col et contraction de l'utérus dans le premier trimestre de la grossesse, qui a été tellement utilisé qu'on s'est retrouvé finalement avec des problèmes d'hémorragie et de mort suite à ces hémorragies aiguës.
Mon Dieu.
Voilà à peu près les cas de décoction des médicaments que nous connaissons.
On a vu des filles prendre des produits de morora qu'elles ont introduits dans l'utérus parce qu'elles voulaient faire partir l'enfant puisqu'elles n'avaient pas les moyens pour aller voir un médecin. Alors on va parler un peu de la législation. Que dit la loi ? Je sais qu'elle est interdite au Sénégal. Mais Maître Ousmane Thiam, que dit la loi au Sénégal ?
En fait, la loi, c'est le code pénal lui-même du Sénégal qui interdit dans son article 305 le fait de recourir à l'avortement. Donc, si vous êtes arrêté pour les faits d'avortement, vous êtes passible de sanctions qui peuvent aller de 1 an à 5 ans, parce que c'est des peines délictuelles. L'avortement est considéré comme un délit au Sénégal.
Comme un délit. De 1 à 5 ans de prison.
Comme un délit. Mm-hmm. C'est un délit, oui. Mm. Et... Donc maintenant, bon, si vous êtes arrêté, donc il y a certainement des complices également qui vont être visés, parce que celui qui vous aide à l'avortement, donc, est aussi passible de la sanction. Parce que il
c'est-à-dire le médecin ou le tradit praticien est passible de peine de prison.
Oui, le médecin, le tradit praticien ou la personne même qui vous a demandé, qui vous a accompagné à aller faire l'avortement. C'est-à-dire, quand on parle de complicité, c'est toute personne qui vous apporte de l'aide ou d'assistance dans la commission de l'infraction. Ce qui fait que c'est assez large les personnes qui sont visées. Ça peut être le médecin, ça peut être la tante, la mère, en tout cas une personne qui a été quelqu'un qui vous a aidé dans la commission de l'infraction.
Alors on sait que la loi est assez dure là-dessus, mais est-ce qu'il y a régulièrement des condamnations dans ce sens-là?
Oui, il y en a plusieurs. D'ailleurs, moi j'en ai défendu pas mal de femmes qui ont été parfois condamnées. Mais parfois aussi, le juge prend en compte certaines circonstances qu'on peut considérer des circonstances atténuantes qui sont liées aux origines défavorisées de la fille. Parfois aussi, c'est pour des contextes de pesanteur sociale, parce que la plupart du temps, c'est des filles qui ont contracté des grossesses qu'ils n'ont pas désirées et qu'après, la personne qui les a mises enceintes ne prend pas ses responsabilités. La troisième, c'est que parfois, c'est des dames qui sont mariées à des émigrés. Et parfois, les émigrés peuvent rester 5 ans, 6 ans sans venir. Et comme c'est des humains, parfois, ils ont des besoins naturels. Ils fréquentent de temps en temps avec d'autres personnes. Et parfois, sans le vouloir, elles contractent une grossesse. Et souvent, c'est ces genres de dames qui recourent à l'avortement.
Alors, c'est-à-dire, je résume un peu parce que la qualité du téléphone est moyenne. Il y a un vent extraordinaire à côté de vous. C'est-à-dire que, en réalité, si l'immigrant est parti et que la femme a un enfant qui est censé être illégitime, le juge peut comprendre et ne pas la condamner, c'est ça?
Oui, bien sûr. C'est des circonstances qui sont prises en compte parce que on va considérer peut-être que ce voyage n'avait pas eu lieu et pour des périodes assez longues. De 5-10 ans, et que parfois, c'est des filles qui ont été mariées très jeunes, et qu'après avoir eu leur premier rapport sexuel, se voient être en abstinence pendant presque 5 ou 6 ans. C'est assez difficile pour une dame qui vient de connaître ce qu'on appelle les relations sexuelles. Et ça, le juge en prend compte si l'avocat essaie d'expliquer ces circonstances au juge.
D'accord. Ça veut dire que les juges sont quand même un tout petit peu arrangeants. Un petit peu souple.
Non, bien sûr, ils prennent en compte certaines circonstances, oui. Mm-hmm. Ils prennent en compte certaines circonstances liées aux origines défavorisées, liées également au fait que parfois, certaines dames ont recours à l'avortement sans savoir que c'est interdit.
C'est interdit.
Vous savez, au Sénégal, la loi, elle est votée, mais parfois, il y a certaines couches qui ne sont pas très au fait de ce que dit la loi par rapport à certaines infractions.
pas qu'au Sénégal. Mahmoudiko, vous qui êtes imam, que dit la religion sur cette question de l'avortement? Est-ce illégal, totalement interdit?
Merci, monsieur Alain. Et bonjour à tout le monde. La position de la religion musulmane est très claire par rapport à l'avortement. D'abord, comme principe, l'avortement est totalement interdit. Mais pour des raisons médicales, pour préserver la vie de la maman s'il le faut, et si c'est prouvé médicalement, ça peut être autorisé.
Mmh. Donc ça peut être autorisé. C'est beaucoup moins, on va dire, beaucoup moins radical, beaucoup moins dur que dans la position catholique où c'est totalement interdit. Je lis ce que disait le pape François, qui dit « Le pape François a réitéré le 25 mai dernier son opposition à l'IVG, qu'il a comparé à engager un tueur à gages pour résoudre un problème. » Est-ce que c'est comparable, imam?
Je ne pense pas que ça soit comparable, mais la religion musulmane interdit cela est clair, mais à des positions un peu, en tout cas des positions moins dures quand il s'agit de préserver la vie de la maman médicalement quand c'est prouvé.
Et dans le cas du viol ou de l'inceste par exemple?
Non, pas le viol ou l'inceste, non. Il faut préserver la vie des deux, mais c'est seulement dans un cadre où médicalement c'est prouvé que le fait que l'enfant la reste peut donner porte vie à la mère qui porte l'enfant. Et là, la religion musulmane autorise qu'on sauve l'essentiel qui est la mère.
Alors, Ravelo Arimissa, sur place à Madagascar, est-ce qu'il y a régulièrement des condamnations dans ce sens? Parce que la loi là-bas également est très très dure.
Oui, la loi est dure et la loi a été endurcie. Je m'explique. Avant, donc notre code pénal qui est basé sur le code Napoléon de 1810, de 1810, en son article 317, interdit l'avortement, l'interruption de la grossesse est criminalisée. Mais pour tout ce qui était acte médical pour sauver la mère, comme a dit l'imam, était plus ou moins, accepté et déontologiquement suivi par nos gynécologues. Seulement depuis décembre 2017, c'est donc écrit noir sur blanc que même en cas de viol, inceste ou des grossesses qui peuvent tuer la mère, on ne peut plus rien faire.
Ça veut dire que même lorsque la vie de la mère est menacée, on ne peut pas faire l'avortement, c'est ça?
Oui. Donc
on peut faire perdre et la mère et l'enfant.
Donc le gynécologue doit dire au mari ou à la famille de préparer les funérailles d'une femme qui est encore là. Et qui
ah oui, carrément.
Carrément, parce que même eux, ils se trouvent entre le marteau et l'enclume. Le gynécologue qui constate que la femme va mourir à tous les coups ne peut rien faire. Donc lui, s'il fait l'acte, il sera criminalisé. S'il ne fait pas l'acte, la famille peut porter plainte pour non-assistance à personne en danger de mort. Donc vous voyez le ridicule dans la loi.
Et c'est déjà arrivé ça?
Oh, je pense que maintenant ça arrive tous les jours parce que c'est clair, les gynécologues ont pris position que donc c'est libre choix au gynécologue de faire l'acte ou pas, mais quoi qu'il en soit, le fait est là. On sait aussi qu'il y a eu plusieurs femmes qui ont été condamnées, qui sont en prison, pour avoir été jugées comme étant auteurs d'avortement.
Alors que leur vie était menacée.
Donc pour les cas des femmes qui étaient qui sont en prison, là on ne sait pas pour si c'était médical ou pas, mais pour ceux depuis 2017, on n'a pas encore eu de retour, mais c'est sûr qu'il y a eu des victimes.
Il y a des victimes. On va en parler dans la seconde partie, on va parler également du fait que la criminalisation de l'acte ne diminue pas le nombre d'avortements. Comment sortir de ce cercle vicieux? On en parle dans la seconde partie du débat africain, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute.
Le débat africain. Alain Foucault.
Des jeunes filles qui s'introduisent du verre pilé, des objets pointus ou des produits chimiques dans l'utérus, qui s'injectent du détergent, de la soude, de l'acide, des décoctions, des tradis praticiens ou d'autres médicaments dangereux. C'est leur moyen, à elles, de contourner la loi qui interdit les avortements. Chaque année, elles sont ainsi plusieurs dizaines de milliers à mourir en essayant de se débarrasser d'une grossesse non désirée. Et celles qui survivent sont très souvent mutilées à vie. On n'en parle pas. Mais chacun en Afrique connaît dans son entourage au moins une victime des avortements clandestins. Comment en finir avec cette tragédie? Est-il opportun de conserver cette législation répressive qui pour l'instant ne semble pas vraiment efficace? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré aujourd'hui à l'avortement. Plusieurs invités au téléphone. D'abord, l'imam Mahmoud Diko, ancien président du Haut Conseil islamique malien. Il est en direct de Bamako. Second invité, Docteur Joséphine Fokam, gynécologue obstétricienne à Bafoussam dans l'ouest du Cameroun, l'une des patronnes d'une des importantes cliniques sur place, Ouest Santé. Notre troisième invitée est Madame Bolatiana Raveloa-Rimissa, la cofondatrice du mouvement Nifi Akanga, un mouvement féministe pro-choix à Madagascar. Le mouvement est né à la suite de la suppression par le Parlement de l'article légiférant l'interruption de grossesse pour des raisons médicales. Raveloa-Rimissa est aujourd'hui en direct de Harare, la capitale zimbabwéenne. Notre dernier invité, pas des moindres, est Maître Ousmane Thiam, le président de l'Association des jeunes avocats sénégalais. Il défend notamment des femmes accusées d'avortement et d'infanticide. Pas aisé dans un pays où la loi est particulièrement dure sur la question. Il est en direct de Dakar, la capitale sénégalaise. Nous avons évoqué un peu les raisons qui amènent ces filles à procéder aux avortements. J'ai envie de poser la question au docteur aujourd'hui. Vous qui êtes en contact avec ces filles quotidiennement, est-ce que le fait de durcir la loi a diminué le nombre des avortements? Docteur Fokam?
Oui, moi je ne dirais pas qu'on a durci la loi parce que depuis belle lurette, l'avortement est interdit au Cameroun, mais est au moins autorisé les avortements thérapeutiques. Mais je crois que ça n'a rien changé à la situation parce que généralement il y a une tolérance administrative où on fait plutôt la différence entre les avortements pratiqués par des professionnels de la santé et des avortements pratiqués par des charlatans ou des jeunes filles désespérées.
Dans leur chambre.
C'est rare de voir qu'on a condamné un médecin pour avoir pratiqué l'avortement. On ferme un peu les yeux là-dessus, surtout que les médecins arrivent toujours à se débrouiller, à faire passer le côté thérapeutique de l'avortement qu'ils ont pratiqué et qui a malheureusement créé un problème. Parce qu'en fait, on n'en parle au Cameroun que quand ça a créé un problème. Je n'ai pas encore vu de cas où on est venu arrêter un médecin qui a pratiqué un avortement qui s'est très bien passé, mais on ne soulève le problème malgré la loi que quand il y a mort d'homme. Là, cette loi n'a pas du tout changé, quoi que ce soit. Au contraire, les gens se comportent comme si elle n'existait pas au Cameroun.
Alors, on a envie de dire qu'il existe aujourd'hui des moyens de contraception qui puissent empêcher ces avortements-là, qui puissent empêcher d'avoir des grossesses non désirées. Comment expliquer que malgré le fait que ce soit, dans le cas du Cameroun, vendu tout à fait officiellement, par exemple la pilule, qu'il y ait toujours autant d'avortements? Ça vient de quoi?
Moi, je crois que c'est l'indiscipline des Camerounais qui ont une façon de penser qu'il faut jouir de toutes ces libertés et trouver des solutions après. Ça n'entre déjà pas dans la tradition africaine de prendre des contraceptifs, parce qu'on était dans l'optique de c'est Dieu qui a donné, donc on le fait.
Même la génération actuelle?
Oui, moi nous avons très peu de pilules qui sont vendues, aussi bien en milieu étudiantin que dans les couples. Les gens préfèrent, comme on dit, jouer avec la chance et après chercher à trouver une solution. C'est ça la triste réalité. À un moment donné, on a même distribué des contraceptifs dans les hôpitaux pour inciter les femmes à utiliser ces contraceptifs, mais ça n'a pas été. Donc je crois qu'on peut parler de naïveté, tout ça mélangé, et le côté culturel. On veut respecter notre côté culturel, mais on veut aussi diminuer les charges qui vont
avec. Oui, c'est un peu curieux. Et à Madagascar, est-ce que sur place c'est de l'ignorance? Est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de moyens de contraception mis à la disposition des femmes qui suscitent toutes ces grossesses non désirées?
Pour Madagascar, moi personnellement, je veux aller au-delà de la culpabilisation de la femme. Parce qu'on a toujours tendance à dire déjà Les filles, j'ai entendu les filles, alors que en réalité ce ne sont pas les filles, comme j'ai dit, mais les femmes, plutôt les femmes. Mm-hmm. Donc pour moi, c'est l'échec de la campagne pour la contraception. Un chiffre, à Madagascar, le taux de prévalence de contraceptifs pour les femmes est entre 20 et 33%. On n'a jamais dépassé ce taux. Donc il y a un échec. Et il faut se remettre en cause pourquoi il y a eu cet échec. De deux, il faut aussi dire que n'importe quelle contraception n'est jamais sûre à 100%. Donc même celles qui sont sous contraceptifs peuvent tomber enceintes et peuvent n'avoir pas désiré cet enfant ou la grossesse. Donc il faut voir sur ces principes qu'il y a un échec. Dans cet échec, il y a plusieurs responsabilités. Celui de l'État, celui des campagnes, celui aussi de la société en général, celui des leaders traditionnels et religieux, mais quelque part aussi la responsabilité de la femme qui aurait dû peut-être aller prendre une contraception, mais également aussi la responsabilité du conjoint ou du mari ou du petit ami. Parce qu'on parle beaucoup de la femme, mais en termes d'avortement, il faut aussi y adhérer l'homme.
Alors, lorsque l'on vous dit que si on fait la loi, si on rend la loi plus dure, c'est pour amener les femmes, les hommes, les maris à prendre un peu plus conscience du fait qu'ils doivent prendre leurs dispositions. Que dites-vous de cela?
La récente étude que nous avons faite a mis vraiment en exergue que ce soit la religion, la philosophie, nos cultures et même des lois qui sont très très dures, ça n'empêchera jamais une femme décidée d'en finir avec une grossesse non désirée. Donc ce n'est pas en mettant des lois qui sont dures qu'on va arrêter les avortements insécurisés, c'est en mettant en exergue l'accompagnement, parce que du moment qu'on interdit, on ouvre la porte grande ouverte à tout ce qui est avortement insécurisé, donc la mort à des femmes, la ruine aussi de familles, voilà.
Alors, Imam Mahmoud Diko, quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Ces filles qui meurent malgré la loi qui est particulièrement dure, est-ce qu'il ne faut pas un peu alléger cette loi? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on en rediscute?
Mais je pense réellement qu'on est en train de parler des conséquences en oubliant vraiment la cause de ces avortements. La cause, c'est d'abord le fait de laisser aujourd'hui la porte ouverte à cette dépravation et cette liberté sans fin, sans limite, sans ordre, où les gens peuvent vraiment, la sexualité est devenue quelque chose de désordonné, où rien n'est contrôlé là-dedans. Si vraiment on laisse comme ça, mais qu'est-ce qui va empêcher aux gens d'avoir des grossesses désirées ou non désirées? Ils en auront beaucoup. Moi, je pense réellement, là où peut-être que vous ne voulez pas en venir, que moi je vais dire en tant que religieux, c'est qu'il faut d'abord qu'aujourd'hui on mette de l'ordre dans la sexualité. On ne peut pas laisser les gens faire de la sexualité comme le marché dans lequel on rentre, on fait ce qu'on veut, on désordonne comme on veut, on achète comme on veut, on se comporte comme on veut. On ne peut pas se comporter comme ça. L'humanité a été vraiment privilégiée, les hommes ont été privilégiés par le Créateur, qu'il a ordonné notre socialité. Ça ne doit pas se faire dans un désordre. Et c'est ce désordre-là qui nous amène en réalité à cette situation, à ce résultat aujourd'hui, qui est quasi planétaire, comme vous l'avez bien dit dans votre introduction. La question de l'avortement est devenue une question planétaire. Je vois des femmes qui jubilent l'autre jour en Argentine parce que alors il y a une loi qui leur permet vraiment d'avorter. Ça fait pitié. Enfin. Vous allez ôter des vies.
Imam, là, à l'instant, le docteur Fokam vous faisait comprendre, et même madame Ravaloa Rimissa, elle vous faisait comprendre que même dans les couples, ça arrive, ces avortements-là. On fait des avortements dans les couples, ce n'est pas que de la dépravation sexuelle dont vous parlez.
Mais quelles sont les causes des grossesses? C'est quoi? C'est des grossesses qui sont désordonnées, qui se font dans n'importe quelle situation. C'est des filles de 13, 14 ans, 15 ans qui sont en grossesse. Parce que
non, mais elle vient de vous dire que non. Elle vient de vous dire que la majorité, c'est des femmes mariées entre 35 et 45 ans.
Ben, ça, c'est ce qu'ils disent, mais est-ce que c'est la réalité du moment?
C'est ça, les chiffres.
La réalité.
Est-ce que je me trompe, Madame Ravello-Arimissa?
Ce sont des chiffres qu'on a fait. C'est des fruits de statistiques que nous venons de faire en 2018. Et c'est une réalité en Afrique. Il ne faut pas se mentir. Parce que du moment que nous mentons, en mettant et en stigmatisant les jeunes, nous ne parviendrons jamais à trouver vraiment des solutions, à trouver un équilibre dans notre société.
Maître Ousmane Thiam, ce que vous avez souvent, que vous défendez, ce n'est pas que des jeunes filles.
Non, ce ne sont pas que des jeunes filles. Il y a déjà des femmes mariées, il y en a. Mmh. Il y a des femmes qui sont divorcées. Il y a beaucoup. Ça tourne entre la tranche d'âge, entre 18 jusqu'à 40 ans. Donc, ce n'est pas juste réservé aux filles qui sont en âge de procréation.
Imam Marmoudiko, vous voyez bien que ce n'est pas qu'une histoire de dépravation. On parle encore des cas dans des couples mariés. Comment vous justifiez ça? Comment on fait dans ce cas? Vous laissez mourir la mère d'enfant?
Non, pas du tout. Une femme mariée légalement qui a une grossesse, si médicalement c'est prouvé, j'ai bien dit que si médicalement c'est prouvé que cette grossesse peut porter atteinte à la vie de la femme. Et là, l'islam a donné une position pas très souple par rapport à ça.
L'islam a une position, c'est vrai, plus souple que le catholicisme. Mais ça, il faut le dire les choses comme elles sont. Alors, il s'agit aussi de la liberté de la femme, non?
Ben, la liberté de la femme, est-ce que sa liberté lui donne vraiment le droit d'ôter la vie à une vie? Cet enfant-là, c'est une vie.
Là, j'ai envie de poser la question au docteur Fokam. Que répondez-vous à cela?
Ben, moi, je voudrais bien comprendre la position de... Je comprends la position de l'imam. J'ai eu à travailler dans la partie nord du Cameroun où l'islam est très répandu. Dans cette culture, on pense que prendre des pilules, c'est pour cacher la prostitution. Donc, on a des femmes qui prennent la pilule ou bien qui font le planning familial de quelque manière que ce soit, sont soupçonnées par leur mari et leur belle-famille d'avoir des relations clandestines.
Ah ouais?
Et c'est donc ainsi qu'on se retrouve avec des grossesses indésirées parce que en même temps, cette femme ne peut pas prendre des contraceptifs. En même temps, elle doit être disponible chaque fois que son mari a besoin d'elle. On se retrouve donc avec des familles qui ont des enfants à très grand nombre et ils ne peuvent pas toujours s'en occuper. Et de plus en plus, il y a donc des avortements clandestins dans la communauté musulmane parce que qu'on le veuille ou non, il y a le problème économique qui nous rattrape. Très souvent, ces musulmans, devant la charge des enfants que la femme a eu malgré elle, elles sont souvent répudiées facilement parce que le mari n'en peut plus. Donc voilà un peu le drame. Et je voudrais donc dire que chez les Bamiléké, on retrouve aussi un peu ça, où les parents estiment que les jeunes filles qui prennent les contraceptifs, c'est parce qu'elles ont plusieurs partenaires. Donc il y a ce choc culturel qui fait que la pilule ne peut pas être accepter ouvertement. Les quelques rares personnes qui prennent des pilules le font en cachette, mais comme vous avez dit, il faut qu'à un moment donné, on fasse la part des choses entre le bénéfice du planning familial et les décès qui découlent des avortements.
Justement, non. C'est la question. On a beau interdire, il y a des avortements. Que fait-on aujourd'hui pour que ces avortements se fassent de façon légale, de façon moins, on va dire, moins clandestine, Marmoudiko?
Charles, je voudrais quand même dire, concernant la contraception, que dire que bon, les femmes se cachent pour aller prendre ça parce que les hommes ne peuvent pas être au courant, etc., etc. Je crois que ça, c'est des choses qui se font en commun accord avec l'homme. Mm-hmm. Si la situation de la femme, sa santé ou autre raison,
c'est que... Ou le planning familial.
La contraception pour le planning familial, elle va le faire, mais avec son mari. Ils le feront ensemble parce que c'est leur couple, ils gèrent leur vie et leur situation ensemble. Mmh. Moi, je pense que c'est là, l'islam n'a jamais interdit que s'il y a un problème pour lequel, une raison quelconque valable pour lequel vous devrez, la femme doit passer pour faire la planning, disons le planning familial ou la contraception, et que c'est là interdit. Non, elle est interdite dans des conditions, mais quand s'il y a des conditions aussi qui existent, l'islam peut, en ce moment, donner un faveur pour le faire. Mais ça s'est fait avec l'aval de l'homme, ils le font ensemble, et c'est eux qui gèrent leur vie, c'est eux qui savent le pourquoi et les raisons. Maintenant, comme je le dis, il est difficile aujourd'hui de parler de l'avortement
en oubliant les conséquences de ces grossesses. Les conséquences de ces grossesses, c'est la réalité, c'est le laisser-aller, c'est la dépravation pure et simple, c'est le désordre dans la sexualité qui aujourd'hui qui s'installe dans le monde, où personne ne contrôle plus rien. On parle de la liberté de la femme, d'accord, elle est libre, sa liberté doit être respectée. Alors cet enfant qui doit naître, qui est une vie, qu'on doit ôter, elle n'a pas de liberté, elle.
Mais dans le même temps, vous préférez qu'il y ait autant de morts pour rester sur le principe?
Mais si on autorise l'avortement, c'est aussi autant de morts. On va tuer beaucoup de gens, on va ôter beaucoup de vies.
Je préfère que ce soit Ravelo Rimissa qui vous réponde à cela.
Oui, donc on enlève les sentiments et on revient sur les chiffres. Est-ce que l'avortement qui est légalisé dans les pays légalisés, est-ce que ça entraîne plus d'avortements? Donc c'est un catégorique, c'est un non. Quand on donne l'autorisation pour l'avortement et que ce soit sécurisé, donc dans des lieux bien précis qui sont gérés par l'État, tous les chiffres montrent que il n'y a pas plus d'avortements, mais il y a moins de morts, parce qu'il y a moins d'avortements insécurisés. Je voudrais aussi qu'on puisse faire la part des choses. Il y a avortement sécurisé et il y a l'avortement non sécurisé. Ce qui se passe en Afrique, c'est plus des avortements non sécurisés qui se fait n'importe où. L'avortement sécurisé, donc accompagné, se font donc d'une manière médicale, dans des lieux bien précis. Et les chiffres sont clairs. Quand on donne l'autorisation et qu'il y a un accompagnant, il n'y a pas plus d'avortement.
Maître Ousmane Thiam, en durcissant la loi sur l'avortement, est-ce que ça a diminué le nombre d'avortements au Sénégal?
Non, je ne le pense pas, parce que déjà, la loi est votée depuis longtemps, le code pénal est applicable au Sénégal depuis que le Sénégal a pris ses indépendances. C'est des peines qui vont de 1 an à 5 ans. Et jusqu'à présent, le dernier rapport qui a été publié a montré qu'on a eu 551 400 cas d'avortement clandestin.
Ah oui, quand même.
Donc ça veut dire que même si les gens sont au courant des peines qui sont prévues, les femmes ont toujours recours à l'avortement. C'est parce que peut-être il faudrait qu'on voit d'ailleurs d'autres méthodes pour essayer de voir quelle est la solution la meilleure. Le Sénégal a essayé avec le protocole de Maputo. Il l'a ratifié, mais bon, dans ce protocole, il est prévu que l'avortement puisse être accordé à la femme en cas de viol, d'inceste et si la santé de la mère est en jeu. Mais le Sénégal l'a ratifié, mais jusqu'à présent, on a besoin d'uniformiser notre loi pour que l'article 305 puisse être enlevé du code pénal. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore fait à cause de certaines pesanteurs. J'avoue que moi, j'ai participé à beaucoup de séminaires, beaucoup de rencontres entre les organisations féminines, les juristes et les religieux. Et ça permettait aujourd'hui de voir, en tout cas, l'ambiance qui pèse, en tout cas les pesanteurs qui pèsent sur le pays, par rapport aux pesanteurs sociales, les pesanteurs religieuses, pour essayer de voir quelle est la meilleure solution à adopter. Parce que l'avortement, ici, il est sécurisé. Et je pense que c'est moins de complications pour la dame. On en a vu des gens qui prennent des breuvages, des médicaments sans... Ils font de l'automédication. Et ça, c'est très dangereux.
C'est très, très dangereux.
L'automédication, et ça, c'est très dangereux.
Alors, dernière question, puisque nous arrivons au terme de cette émission, dernière question que j'ai envie de poser à vous, qui est de Madagascar. Est-ce qu'aujourd'hui, les autorités malgaches avancent dans le sens, on va dire, d'assouplir la loi?
Ils font dans le sens contraire, mon cher. Et ça s'endurcit de plus en plus, vu que on peut aussi dire que ça a une relation avec la visite future du pape qui va venir normalement en septembre. Et donc nos politiciens font bonne impression d'être de bons catholiques. Je le dis vraiment carrément parce que c'est la réalité.
Ben merci à vous. On reviendra sur ce sujet. On espère que la loi va être améliorée et qu'on va tenir compte de toutes ces vies que l'on perd en raison de ces avortements. Merci à vous d'avoir accepté de venir débattre. Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute.